saggi, t'as l'envie pour nous défaire la vie. C'est triste, la vie serait moche. Alors, alors, je fume, je bois et j'écris. Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Monsieur.
Je porte un toast à tous ceux qui on luttait pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et débat du jour qui commence avec au programme aujourd'hui un petit écart, un pas de côté, puisque nous n'allons pas parler de littérature à proprement parler, mais nous allons retrouver Batlick et son écriture ciselée qui nous propose son dernier album. Album intitulé Numéro 13 et qui est sorti le 13 octobre. Voilà pour la première partie de cette émission. Et ensuite, nous retrouverons Gérard Guégan qui nous parlera de deux ouvrages dans sa chronique mensuelle de ce soir. Et puis voilà pour le programme de ce jour. Moi, j'évoquerai quand même brièvement le dernier livre publié aux éditions du Tripode de Goliarda Sapienza, l'auteur de L'Art de la Joie. Et c'est déjà un beau programme. Donc, on se retrouve tout de suite avec Batlick pour Numéro 13, son dernier album. Pour Radio Libertaire 89,4 MHz et on retrouve Batlick pour un nouvel album. Ça fait un petit bout de temps quand même qu'on se retrouve de disque en disque et c'est un plaisir, mais là c'est un plaisir un petit peu particulier parce que cet album qui s'intitule Numéro 13, c'est le dernier.
Ce sera le dernier album, bonjour. Bonjour. Effectivement, tu as raison. J'ai répondu dans le désordre, j'ai mis un bonjour après avoir répondu au début. Oui, ce sera le dernier album que je ferai, album en tant que tel. Je vais pas arrêter la musique complètement, mais en tout cas, pour ce qui est de faire des disques, faire des tournées, produire des albums, la machinerie d'en faire un métier comme ça, je vais arrêter. Je vais reléguer la musique à un endroit que je trouve plus serein et plus agréable pour elle, qui va davantage correspondre à l'endroit du hobby, du plaisir, que à celui du métier par entière.
Alors, oui, ça fait 20 ans quasiment de chansons, mais j'aimerais, avant qu'on parle de celui-là, numéro 13, qu'on revienne un petit peu sur ce que tu as fait précédemment, parce que peut-être que dans nos auditeurs, tout le monde ne te connaît pas. La première fois qu'on s'était vu, c'était pour Juste à côté, donc ça remonte déjà un petit moment. Et ce qui est intéressant aussi de préciser peut-être pour nos auditeurs, c'est que par rapport à tes premiers albums, justement, tu as souhaité que certains ne soient plus accessibles. Tu veux bien nous en parler un peu ?
Alors, ils sont pas complètement plus accessibles. Ils sont plus difficilement accessibles. Les albums, ils sont toujours accessibles via le site internet. Qui maintenant, un site, c'est comme une espèce de vieille de chevaux par rapport à internet. Mais je les ai laissés là pour ceux vraiment qui avaient envie de, simplement de racheter soit un morceau, soit un de ces anciens albums. En revanche, je les ai enlevés de tous les moyens de communication qu'on peut trouver facilement, c'est-à-dire les réseaux, YouTube, où là, on suffit de cliquer, on partage. Je voulais plus qu'il soit aussi facilement partageable qu'avant. Je voulais plus qu'il soit diffusé comme Internet permet de le faire, c'est-à-dire voilà, envoyer aux quatre coins du monde en quelques clics et quelques secondes des zéros et des uns avec de la musique dedans ou des images, ce genre de choses. Voilà, je voulais freiner la diffusion de ces albums parce que clairement, je les aime pas. Je les aime pas et du coup. Ça me gênait de quand les gens tapaient Batlick simplement sur Internet que ces choses-là soient facilement accessibles. Donc je les ai pas complètement retirés. Ceux qui veulent faire l'effort et qui ont l'envie, ils trouvent le besoin de les avoir, ils peuvent les avoir. En revanche, ce sera plus aussi facile d'accès, surtout pour ceux qui connaissent pas ce que je fais. Ce qui me gênait. C'est que les gens puissent avoir un premier accès par rapport à l'ensemble de l'œuvre artistique que je propose depuis 20 ans avec ces choses-là. Et sans que je comprenne bien pourquoi, j'imagine que c'était parce qu'elles étaient là depuis plus longtemps, et ben le fait est que les algorithmes faisaient qu'elles étaient plus facilement accessibles que les choses plus récentes. Et ça me gêne. Voilà, donc la façon la plus simple pour moi de remédier à ce problème, c'était de les retirer de tous les réseaux mainstream.
Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans ta démarche, parce qu'on se connaît quand même depuis un petit moment, c'est de voir l'évolution en termes d'écriture. On va commencer par l'écriture des chansons. En termes d'écriture, c'est assez fascinant parce que tu... alors, j'aimais bien tes premiers disques aussi, je les ai écoutés, on a eu l'occasion de se connaître comme ça. Mais d'album en album, plus ça va, plus tu ciselles ta manière d'écrire les chansons.
Oui, bah ça fait. J'avouerais que j'ai changé. On en avait déjà parlé de ma façon d'écrire le jour où j'ai arrêté de discourir. En fait, j'avais l'impression que pendant très longtemps, la jeunesse aidant, j'imaginais que j'avais des choses à dire sur des points de vue que j'aurais eu sur certaines choses, la société, la relation, et qu'il était important de les faire entendre aux autres par le biais d'une espèce de discours. Et j'ai revu ça, il me semble, au moment du Poids du superflu.
Oui.
Cet album, il a révélé chez moi le rapport à l'écriture sous forme de discours, quoi. Je me suis dit que c'est ce que je faisais là, et je voulais ne plus faire ça. Et en fait, ça a changé mon rapport et à la musique et à l'écriture, dans la mesure où je me suis plus mis à discourir, je me suis mis véritablement à écrire. Et à écrire des textes qui devaient être mis en musique. Et non pas, comme je le faisais avant, à mettre de la musique sur des textes qui sur des discours. Et pour ça, moi, ça a complètement révolutionné mon rapport à l'écriture et mon rapport à la musique, parce que la musique ne s'est plus retrouvée au service de l'écriture, mais c'est l'inverse qui s'est produit. L'écriture s'est retrouvée au service de la musique, et c'est, à mon sens, ce qu'il s'agit de faire. Ce que j'aurais dû faire dès le départ. Pourquoi je l'ai pas fait? Peut-être que c'est parce que comme je suis pas un musicien à la base, je suis un autodidacte, j'ai jamais vraiment eu un apprentissage de la musique. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre en fait que ce que c'était que la musique, ce que ça procurait chez moi, pourquoi j'en faisais, comment j'avais envie d'en faire. Ça a été une démarche qui m'a pris plus d'une dizaine d'années. Et une fois que je l'ai compris, je me suis mis à travailler dans ce sens-là, et c'est ce qui a changé mon rapport à l'écriture.
Il était présent, le présent avait le goût du luxe et du sang. Maintenant qu'il se fait rare, qu'il se fait attendre pour l'extraire du noir, faut souffler sur ses cendres. Voilà ce qui s'en va, c'est pourquoi il faut se battre. Alors que c'était là, sans qu'on ait à se battre, pour lui sous les draps, ou dans l'éclair obscur des vanités, ce qu'il s'agit de garder, pour vivre adulte et animé. Les ombres grandissent et puis rétrécissent jusqu'à disparaître au prochain solstice. Sève, 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 sève. Sève, 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 sève. 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 Sève, 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 sève. Sève, 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 sève. 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 Tant qu'il était présent, le présent avait le goût du luxe et du sang.
Bon, c'est particulièrement net avec ce dernier album, là, numéro 13, parce que moi, je l'aime beaucoup, cet album. Et en même temps, c'est difficile de dire pourquoi. Ce que je peux dire, c'est ce que je ressens en l'écoutant. C'est-à-dire que les textes, c'est une écriture poétique où, effectivement, ce qui compte, c'est la musique des mots associée aux musiques que tu as choisies. Et on écoute une première fois une chanson, et cette chanson, elle reste dans la tête. Pas par son sens, mais par ce qu'elle nous procure. Et ça, je trouve ça, c'est un peu la définition de la poésie aussi.
C'est la définition de la poésie, c'est la définition de la musique aussi. Je pense que c'est l'objet de la chose. Dès qu'on est musicien, on essaye d'inscrire quelque chose dans chez l'autre, quoi, chez soi aussi. Et j'aurais envie de rajouter que... les textes que j'ai écrits depuis Le Poids du Superflu, au fur et à mesure des albums, à chaque fois, ont été de plus en plus proches de ce que de moi, en fait. C'est vraiment une proximité qui s'est créée entre mon écriture, ma musique et ma personnalité, à partir du Poids du Superflu. Alors qu'avant, c'était plutôt, j'aurais tendance à dire que c'était plutôt de l'ordre du déguisement. Tu vois, voire même plus de l'uniforme. Les textes que je proposais rentraient dans un certain lexique, qui rentrait bien dans les bonnes cases à ce moment-là, mais ça n'avait pas grand-chose à voir avec moi. Oui. Ça avait plus à voir avec ce que j'avais envie de dire qu'avec moi.
Oui, c'est ce que tu disais, ça avait un petit côté démonstratif.
Exactement. Regardez ce que je pense. plutôt que d'écouter qui je suis et écouter ma musique. C'était plutôt regarder ce que je pense des choses, ce que je pense de la vie. Je le vois. Je veux dire, il y a des gens qui font des très beaux discours. L'art du discours, c'est aussi
c'est un
art.
C'est un art, oui.
Ouais, ouais. Mais je pense que j'ai fait une erreur, en fait, pendant ces 10 premières années. Je le mets encore une fois sur le compte du fait que j'ai commencé la musique très tard. J'avais aucun bagage musical. Et finalement, j'ai appris en faisant des albums. Et les 10 premiers albums ont aussi essuyé les plâtres de cet apprentissage.
Alors là, c'est vrai qu'avec cet album, j'ai l'impression que ça va un peu à l'essentiel. Il y a 10 titres dessus. T'en as écrit plus. Comment ça s'est passé? Tu as écrit plus que ça et t'en as gardé 10. C'était très prévu au départ. Comment il a été composé, cet album? Parce qu'il y a une unité aussi dans cet album, peut-être plus grande que dans les précédents.
Tous les albums, pour le coup, ont été composés exactement pareil. Je n'ai jamais jeté une chanson. Quand j'ai commencé à écrire une chanson, cette chanson-là, systématiquement, elle s'est retrouvée sur l'album. J'ai jamais fait de chanson en me disant, ouais, celle-là, je la garderai pour plus tard. Non, non, dès lors où j'écrivais une chanson, je pouvais revenir dessus, changer le texte. Mais une fois que j'avais commencé à travailler sur cette chanson, j'ai toujours été jusqu'au bout. Et le bout, pour moi, c'était l'enregistrement et la commercialisation, la production du titre. Donc celui-là, comme pour les autres, ces 10 titres-là sont les 10 titres qui ont été écrits pour cet album. Voilà, il n'y en a pas eu plus, il n'y en a pas eu moins. C'est ceux-là, quoi. C'était les 10 titres qu'il y avait au moment où je me suis dit, je vais faire ce dernier album. Le seul changement, c'est que, avec les autres disques, c'est que je savais en commençant celui-là que ce serait le dernier. Mmh. Donc j'imagine que ça a mis une empreinte quelque part, cette finalité, cette finitude, je sais pas comment on dit, de ce sentiment qu'il y a eu dès le départ que ces dix textes-là seront les derniers à s'inscrire dans le cadre d'un album. Et ça aussi, c'est important parce que on n'écrit pas pareil un morceau. Quand on écrit un morceau qui va se retrouver tout seul, que quand on écrit un album, moi j'ai toujours rebondi sur des espèces de concepts qui avaient beaucoup à voir avec les chiffres, les nombres, en faisant des disques, en me disant ça doit rester dans cette contrainte de cet album. Ça m'a toujours aidé à écrire que d'avoir des jalons contraignants dans un cadre précis d'un disque. Mmh. Voilà.
Elle a senti le souffle du rythme s'emparer de son corps une nuit. Elle l'a senti tout de suite, et le jour suivant aussi. Pourvu que jamais ne se rompe le fil vivant de la rythmique, que même si parfois là saveur s'estompe, elle sache sourire à l'ennui. Chacun recevra ça. chacun recevra ça. Qu'est-ce qu'il en fera? Senti sous la surface les mots, les notes muettes, faites que jamais ne se défasse la beauté cousue dans sa tête.
L'écriture à contrainte, c'est quelque chose d'important et je trouve que c'est un bel outil. En tout cas, cet album donc, s'appelle Numéro 13, il est sorti le 13, puisque tu parlais des chiffres. On va parler de son habillage, si tu veux bien, parce qu'il a un bel habit et il y est question de peinture.
Mmh. J'ai rencontré il y a quelques années de ça un peintre après un concert à Lyon. Où un type est venu me voir en me disant qu'il était peintre. Et le lendemain du concert, j'étais encore sur Lyon, et on a passé un après-midi à discuter essentiellement de notre rapport à l'art. Mmh. Qu'est-ce que c'est que de choisir un métier artistique? Qu'est-ce que ça procure comme engagement personnel? Pourquoi? Est-ce qu'il y a du sens? Est-ce qu'il n'y en a pas? Enfin, on a eu toute une discussion autour de ça. Et quelques mois plus tard, il m'a offert un tableau de lui. Il s'appelle Johan Marienne, ce peintre. Il m'a offert un tableau sur une aire d'autoroute. Je suis en train de remonter de vacances et on s'était croisés sur une aire d'autoroute. Et il s'avère que je collectionne les images d'arbres solitaires, quelles qu'elles soient, photos, tableaux, peintures. Et il m'avait offert ce tableau d'un arbre de solitaire. Et là, pour cet album-là, je l'ai appelé en lui demandant s'il accepterait que j'utilise des peintures à lui déjà existantes pour mettre sur la pochette pour organiser l'artwork du prochain album. Il a accepté, donc j'ai fait un choix assez restreint. Je crois qu'il y en a 3, peut-être 4 en tout des tableaux de Johan dans cet album-là. Mais effectivement, comme c'est maintenant devenu un peintre qui a de plus en plus de métier, il y a donc de profondeur dans son œuvre, je trouve que ça se sent, quoi. On voit que ça met une œuvre dans l'œuvre, quoi. Ça claque, quoi. Ces tableaux, ils sont très beaux. Il a une technique de picturale qui est assez bluffante. Voilà. Et puis il y avait aussi ces images de chiens qui convenaient très bien, parce que cet album là il va de pair aussi avec la mort de mon chien qui a été pour quelque chose dans le fait que j'arrête de faire de la musique aussi. Donc je tenais à faire ce clin d'œil là à mon chien qui m'a suivi quasiment pendant toute la carrière, une grande partie de la carrière que j'ai faite dans ce secteur musical.
Thank you.
qu'elle est. Femme, femelle, soulage ou vomme, menzel, collage, pastel, querelle, querelle, querelle. Ça n'a pas de forme, ça n'a pas de forme, ça n'a pas de forme, ça n'a pas de forme. Non, ça ne met pas les formes comme il se doit. Regarde les formes, regarde les formes, regarde les formes, regarde les formes là. Tu verras ce qu'il y a. Lui, c'est celui qui s'aime. Lui, c'est celui qui s'aime. Homme, mâle, Caravage ou Chagall. Chair, obscur, huile, coulure sur toile. Ça n'a pas de forme, ça n'a pas de forme, ça n'a pas de forme, ça n'a pas de forme. Non, ça ne met pas les formes comme il se doit. Regarde les formes, regarde les formes, regarde les formes. Tu verras ce qu'il n'y a pas. Fleurs, pollen, vol, calme d'hirondelle, chaleur, clarté, printemps doucement commencé avec les abeilles, les abeilles, les abeilles, pétales, pistils. Miel, animaux bloqués partout autour. Désir, bas de gamme, désir d'amour. On m'appelle l'animal savant, le tigre, la foule, le fils de ceux qui étaient là avant. On m'appelle celle qui sait dire comment faire, comment taire, comment ça. Ça n'a pas de forme, non, ça n'a pas de forme, ça n'a pas de forme. Regarde les formes, regarde les formes. Ça n'a pas de forme, ça n'a pas de forme. Regarde les formes, regarde-les.
Alors, on va en parler, puisqu'il y a un des morceaux, celui qui termine l'album, et justement en hommage à Raoul. Mais je reviens sur la peinture, parce qu'il y a quand même aussi une chanson de l'album où est évoquée la question de sens, du sens et par rapport à la peinture. Donc, est-ce que votre discussion a généré cette chanson? Comment elle est venue, celle-là?
Cette chanson, c'est la première chanson que j'écris sur une musique qui n'est pas de moi. La musique, elle a été composée par Johan Guidou, qui est le batteur qui est sur cet album-là. Mmh. Et ma foi, c'était une première pour moi de poser des textes sur une musique que je n'avais pas écrite. J'avais pris cette habitude de ne travailler que sur des musiques que j'avais moi-même composées. Et c'était très, très agréable. J'ai été vraiment surpris de ce qui était au départ, pendant très peu de temps, un inconfort, de devoir me poser et des textes et un groove sur une composition qui n'était pas la mienne. C'est très rapidement transformé en quelque chose de mais vraiment très très plaisant, quoi. Alors ce texte là il est venu très vite. J'ai encore aujourd'hui, j'ai pas tellement de recul sur le texte de cette chanson qui s'appelle West. Mmh. Et qui a effectivement à voir avec l'image, le sens.
Ça n'a pas de sens.
Et ouais. Et aussi sur l'homme, la femme et leur rapport. Voilà. Mais tout ça, c'est encore très flou dans ma tête. C'est une chanson qui est venue quasiment le jour de l'enregistrement. Je savais que je devais écrire ce texte et le moment où je l'ai écrit, et ça devait être, je crois, le jour même. Le jour où j'ai enregistré la voix. Voilà, j'adore ce morceau parce que il me surprend, en fait. Je me suis surpris à écrire sur une composition qui m'était autre. Et j'hallucine. Tout à l'heure, dans cet album-là, j'ai halluciné sur plein de choses que je n'avais jamais fait auparavant, quoi. J'ai eu pas mal de réflexions aussi sur ce que c'était finalement que d'être un artiste comme je l'ai été, qui faisait quasiment tout seul. Mmh. Ce que ça représentait par rapport à l'œuvre, au travail et à la vie de ces artistes. Et on est nombreux à faire ça. Hein. On est d'ailleurs, je pense, plus nombreux que les artistes qui sont très entourés. Voilà, cet album-là, j'ai l'impression d'avoir et puis aussi parce que c'est le dernier, d'avoir conclu et compris pas mal de choses sur ce que ça avait généré, ce que ça avait engendré sur ma musique, d'avoir fait plein de choses et d'avoir finalement relégué la musique au dernier plan pendant 20 ans.
Alors oui, ça sent que c'est le dernier album, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une unité. Si je devais dire en termes de ressenti ce que moi j'ai éprouvé en l'écoutant, c'est une mélancolie très énergique. C'est la fin, mais c'est pas triste.
Ça n'est pas triste du tout. Je ne suis pas du tout triste d'arrêter de faire de la musique mon métier. Encore une fois, je ne vais pas arrêter de faire de la musique. J'en ferai tout le temps. Mais c'est avec une véritable joie que j'arrête d'en faire mon métier parce que finalement, la façon dont je faisais de la musique mon métier, c'était la reléguer encore une fois un plan qu'elle méritait pas, en fait. Je suis certain même que la façon dont je vais pratiquer la musique maintenant lui accordera une place beaucoup plus respectueuse et beaucoup plus agréable pour moi comme pour elle.
Par sa surface, silice apprivoisée, dangereuse et lasse, exister dessus sans laisser de traces. Loup, me vois-tu, vois comme je me déplace. Content comme un commercial, mais volant. Gloria, gloire à la route. Gloria, gloire à moi. Qu'il utilise sans détour, sans l'aimer, voluptueuse entre les chemins, ambuleuse entre les tours, les petits doigts de mes deux mains roulent ses atours. Gloria, gloire à la route. Gloria, gloire. Silice apprivoisée, dangereuse et
place, exister dessus sans laisser de traces. Loup, me vois-tu, vois comme je m'y déplace.
Alors, moi, il y a des morceaux que je préfère à d'autres, comme tout le monde. Hein, je crois que c'est normal. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que cet album, bah, c'est aussi un album, comme c'est le dernier peut-être, c'est un album où tu dédies certains morceaux à des personnes qui sont importantes pour toi. Alors, on peut parler du premier, « Beauté cousue ». Qui est dédié à ta fille. Il y a un morceau dédié à Elsa. Il y a bien sûr ton chien. C'était quelque chose d'important pour toi d'adresser comme ça des morceaux.
Tous les titres de l'album le sont. Les 10 titres sont dédiés. Ça faisait partie du concept de cet album-là. Il s'agissait de faire 10 dédicaces. Hein. Vraiment, il n'y en a pas un qui s'extrait à cette contrainte. Ils sont tous dédiés à quelqu'un ou à quelque chose en particulier. Tu as bien fait de le relever, c'est juste.
L'ordre des chansons dans l'album, c'est aussi, je pense, calculé.
Ah oui, alors, par contre, ça, c'est vrai qu'il y a du calcul là-dedans, mais je ne me suis jamais trop pris la tête là-dessus.
D'accord.
Il n'y a pas vraiment de réflexion. On est plus dans l'ordre de la sensation, d'enchaîner des titres. Je le fais relativement tard, en fait. Je le fais même après le mixage. Ça vient vraiment au moment du mastering où j'ai les 10 titres et à la fin d'un titre, je fais basculer les autres et je m'arrête là où ça me semble le plus naturel. La bascule me semble le plus naturel. Mmh. C'est ce qui donne l'ordre des morceaux. C'est toujours comme ça que j'ai fait. Autant je m'attarde sur des trucs de concept par rapport aux chiffres, par rapport à des... Mais ça, j'ai jamais été très à cheval là-dessus. Je sais que j'avais une fois discuté avec un distributeur qui m'avait dit que c'était essentiel, les ordres des morceaux, parce que dans les écoutes, dans les magasins, il fallait... j'ai jamais suivi ce truc-là. Là. Je sèche un peu. Il faut juste que ça me semble naturel de passer d'un titre à l'autre. Voilà. Et puis maintenant, c'est vrai que les morceaux sont tellement écoutés sous forme de playlist et de moins en moins sous forme d'album en continu, à exception des gens qui achètent des vinyles, etc., que le problème se pose moins. Si c'est jamais, c'est un problème.
Le fait de terminer par Brindille, quand même, peut-être.
Sûrement, effectivement, ça c'est vrai, que le fait de finir ce morceau par le titre sur Raoul, c'était ça allait avec cette idée de fin, de quelque chose qui se meurt, qui est mort. Le désir d'en faire mon métier chez moi est vraiment révolu. Voilà, je n'ai plus cette envie de gagner ma vie avec la musique et voilà, cet aspect de fin allait très bien avec la dédicace pour la mort de Raoul.
Alors, il y a quand même une chanson qui s'appelle « Vierge des usagers » où c'est « Gloire à la route ».
Ouais, c'est une dédicace à la route. Ouais. Je me demandais, avant de prendre cette décision, ce qui allait plus me manquer en arrêtant la musique. Et c'est vrai que j'adore prendre la route, quoi. Aller... Finalement, je me demande même si je préfère pas les moments qu'on passe dans le camion avec les musiciens plus que les moments qu'on passe sur scène. Je sais pas, ça, j'ai toujours aimé partir en voyage, rentrer dans un moyen de locomotion quel qu'il soit, une voiture, un train, un avion, peu importe le bilan carbone, ça me procure une joie. Toujours intense de prendre la route, quoi, de voyager, de rouler, de me déplacer, de marcher, de me promener. C'est vraiment depuis toujours, quoi, c'est le moyen que j'ai pour. Il y en a qui font du sport, il y en a qui boivent des coups, il y en a qui se droguent, il y en a qui font. Moi, c'est vrai que le déplacement, la route, ça m'a toujours. Apaisé et en prenant la route, j'ai toujours trouvé pas mal de réponses aux questions que j'avais avant de la prendre.
«
là, être des chairs qu'emprisonne les doigts. Qui sait ça? Plein de consolés, sans demande, douleur diluée sous la langue. Heureusement que rien ne dure jamais. Heureusement que rien ne dure tout le temps. Folie qu'on fredonne sur lèvres tout bas, idée fixe qu'emprisonne des voix. Qui sait ça? Plainte refusée, redemande, rage refoulée sous la langue. Qui sait ça? Vengeance passée reste châtiment. Semaine, semaine, semaine dedans. Qui? Oh, qui sait ça? Heureusement que rien ne dure jamais. Heureusement que rien ne dure tout le temps.
Alors, on va faire écouter à nos auditeurs plusieurs morceaux de l'album, parce que je crois que c'est le meilleur moyen de se faire une idée. Mais comme tu évoques la route, il faut aussi dire que tu vas faire des spectacles avec ces chansons, que l'album est sorti, mais que tu as quand même une tournée. Et tu veux bien nous en parler un petit peu ?
De cette tournée ?
Ouais.
Écoute, elle est à l'image des tournées que j'ai faites précédemment, avec la différence près que effectivement les salles qui me programment dans le cadre de cette tournée, je pense qu'elles le font parce que c'est la dernière. La tournée a commencé, je vois les salles qu'on va faire. La plupart des salles, j'y suis déjà passé.
D'accord.
Et puis je sais que Antoine Dondon, mon booker, a tout de suite axé la prospection des concerts en annonçant aux salles que
c'est le dernier. Voilà,
que ce serait la dernière tournée. Ouais. Donc j'ai l'impression d'avoir dans le cadre de cette tournée une espèce de bienveillance. Il y a des salles où j'étais surpris qu'elles me reprogramment, qui m'avaient pas programmé depuis longtemps. Il y a aussi des salles où j'étais surpris qu'elles me reprogramment pas. Où j'ai peut-être imaginé qu'on avait un lien plus proche et que voilà, c'était dans ma tête. Et dans l'ensemble, chaque date qu'on fait, quand on est programmé, il y a deux types de salles, hein, globalement. Il y a des salles où le programmateur sait à peine ce que tu fais.
Ouais.
il te programme parce que on lui a parlé de toi, parce que t'es dans l'air du temps, parce qu'il faut te programmer. Et puis il y a des salles où les programmateurs veulent t'avoir. Mmh. Et ça, on le sent tout de suite. Mmh. Voilà. Bon là, j'ai l'impression que cette tournée-là n'est composée quasiment que de salles qui me connaissent, qui connaissent ma musique et qui savent pourquoi elles me programment. Dans cette perspective, cette tournée m'est agréable parce qu'effectivement, c'est toujours plus agréable d'être invité par quelqu'un qui a envie de vous inviter que de l'être par quelqu'un qui connaît ni votre nom ni votre musique.
Alors, on peut trouver toutes les dates sur le site, bien sûr, à Brûle-Pourpoint. Il y a quand même une date à Paris qu'on peut évoquer.
Bien sûr, je peux même je les ai devant les yeux là. On sera à Nantes le 30 novembre, à la Maroquinerie de Paris le 15 décembre, on sera à Alône près du Mans le 19 janvier, on sera au Train Théâtre à Porte-les-Valences le 25 janvier, je viens d'apprendre qu'on sera à Lyon le 26 janvier, à la Marquise, à Montbrison le 27 janvier, à Lignières le 2 février, à Toulouse le 3 février, et à Brest au Vauban le 10 février, et à l'espace Beau Soleil à Pompéan, le 9 février, et au Saxe à HR, le 8 mars, avec Sages comme des Sauvages et sans doute des musiciens bien. Qui... Fred Lamandé à Saxe m'a demandé de repasser, alors qu'on n'est pas passé chez lui il y a très longtemps. Typiquement, ça fait vraiment partie des programmateurs qui me redemandent de passer parce qu'ils savent que c'est la dernière fois, et ce sera un concert un peu particulier, il y aura des invités, il y aura... d'anciens musiciens avec lesquels j'ai travaillé, et comme on m'a souvent fait la remarque, voire le reproche de ne pas rejouer mes anciens morceaux, et ben j'assurerai moi-même ma première partie au sax à la chair en ne jouant que des anciens morceaux, sur une idée de Frédéric Amandé là qui est programmateur du sax. Voilà, donc ça va avec ce que je te disais, là toutes les salles dont je t'ai parlé sont des salles que j'aime voir, j'aime beaucoup. J'ai une affection particulière aussi pour le Vauban à Brest, qui me reprogramme, alors qu'il nous avait programmé il y a pas si longtemps, période de Covid là. Mmh. Voilà, enfin quand je vois la liste en te disant, je sais, je vois dans ma tête chaque salle, je sais où je vais aller, je sais que ça me fait plaisir, et je me doute aussi que ça a du sens vis-à-vis de chacun des programmateurs. Finalement, c'est la tournée qui me fait le plus plaisir. C'est pas une tournée de boulot.
Gloire à la route, en tout cas, c'est bien parce que tu as un beau programme. Eh bien, écoute, en tout cas, on va souhaiter que tout le monde découvre numéro 13. C'est de Batlick, c'est un vrai bonheur d'écoute. Et puis, à l'occasion de se recroiser pour de nouveaux projets, je ne sais pas, des clips que tu feras ou à suivre, et c'est ça qui est bien.
Yes, à l'occasion, carrément.
Pour l'instant.
C'était nul comme fin. Ça fait un peu une fin de flan ou de soufflet. Oui, bien sûr, je me reconvertis, je continue la musique. Je pense que je ferai encore des petits concerts. J'imagine chez des particuliers. J'avais toujours bien aimé faire ça chez des particuliers. Je fais des clips aussi puisque j'ai fait des études de monteur et de cadreur. J'ai fait un premier clip pour David Lafort, qui est un des artistes que je préfère en chanson. Ouais. J'étais très très fier de faire un clip pour lui et je passe un CAP cuisine aussi. Et je m'en vais faire la cuisine la semaine prochaine pour le festival Sur la Langue Extrait des Chansons. Donc je vais faire à manger à tous les programmateurs qui m'ont programmé ou pas depuis les 20 dernières années. C'est avec grand plaisir. Voilà, j'aurai de quoi m'occuper.
Eh ben merci à toi en tout cas. Écoutez numéro 13, c'est de Batlick et c'est vraiment un bonheur d'écoute. Merci à toi.
Merci. Merci, salut.
Détendu et le corps au repos. Après la course folle qu'il a faite plus tôt, il dort entre les filets sur le port. Et les oreilles au vent de 6h30, dedans des paysages ou des lieux obscurcis, il mord.
découpe et dévore.
Voilà, c'est toujours Radio Libertaire, c'est toujours Idéaux et Débats, et c'était donc Batlick qui nous parlait de Numéro 13, son dernier album qui vient tout juste de sortir et dont nous avons pu écouter de quelques morceaux. Je vous conseille d'en découvrir un peu plus en achetant cet album ou en l'écoutant sur les plateformes, et puis d'aller voir Batlick en concert, comme nous l'avons évoqué, avec la liste des dates qui se sont déjà définies. On va retrouver maintenant Gérard Guégan. Gérard Guégan qui va nous parler de deux ouvrages, dont le Modiano. On le retrouve tout de suite. C'est toujours Idéaux et Débats, Radio Libertaire. Toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, c'est Idéaux et Débats, et c'est le plaisir de retrouver la chronique mensuelle de Gérard Guégan, chronique donc du mois de novembre, chronique dans laquelle tu vas nous parler de quoi ? Dis-nous.
De la danseuse.
Évidemment, de Modiano, paru chez Gallimard.
La danseuse de Patrick Modiano, son dernier livre, et d'un livre danois, d'un roman danois, un roman récit de Tove Ditlevsen qui s'appelle Enfance, et ça fait partie d'une trilogie, donc je suppose qu'ensuite il y aura
les 20 ans, etc., etc. Bon, voilà. Donc, commençons par Modiano.
Bien sûr. Allez, vas-y.
Je me suis posé une question, parce que chaque fois que je lis des choses sur Modiano, il est souvent question d'une armoire qu'on ouvrirait, dans laquelle il y aurait des vieilles choses qui dorment, et puis le narrateur, les mélanges et tout ça. Bon, bref, c'est le temps du passé, on a l'impression. Or, moi, je pense que l'œuvre de Modiano, car c'est une œuvre, c'est près de 40 livres, se confond plutôt avec un puzzle. C'est-à-dire que pièce après pièce, c'est le sentiment que j'ai, livre après livre, la figure centrale va apparaître. Et ça pourrait être celle de l'auteur, ça devrait même être celle de l'auteur. En tout cas, avec quelqu'un comme Aragon, évidemment, on n'y aurait pas coupé. Mais Modiano n'est pas un fanatique du reflet. À son image, il préfère les instantanés, les polaroïdes, et pas de lui, mais des femmes qui l'ont marqué. Et donc cette fois, la première pièce du nouveau puzzle s'appelle Pierre, c'est un enfant que le narrateur, la figure centrale, vient chercher dans le Paris du Nord-Ouest. Et chaque fois avec Modiano, c'est toujours précisé les endroits de Paris où on est. Donc on sait que c'est le Nord-Ouest. Pour la ramener à sa mère, qui n'est autre que la danseuse et qui est donc la figure titre. Et tout le temps que les pièces s'assemblent, le narrateur navigue entre les observations du moment et la psychologie des personnages, des uns et des autres, qui sont ces gens, qui sont le petit Pierre, qui est ce monsieur dans la rue qu'il reconnaît et qui lui ne le reconnaît pas, etc., etc. Mais et en même temps, les observations du temps, c'est aussi au fond parler de son époque, et son époque, c'est pas l'époque dont il parle, ce n'est pas l'époque qui est le centre de la danseuse, c'est l'époque d'aujourd'hui. Et on a le sentiment que d'un seul coup, ça se limite à ce qu'il observe dans les rues et qu'il maudit d'ailleurs. Ce sont les foules avec leurs valises à roulettes, leurs énormes sacs à dos et qui ont rendu pour lui méconnaissable Paris. Donc, est-ce que c'est l'avertissement avant la décision, à savoir est-ce qu'il nous dit voilà, Paris n'est plus Paris? Ça rappelle un peu Debord, le vieux Paris n'est plus, et le Debord qui l'avait inspiré d'ailleurs, Modiano. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est juste une observation de grognon? C'est-à-dire à Paris, c'est plus rien, on ne reconnaît pas. Bon, en tout cas, je l'ai noté, ça revient deux fois, trois fois même dans le livre. Et par exemple, donc on en revient au personnage d'aujourd'hui, et d'aujourd'hui et d'hier, ceux qui font la liaison, ça a l'air compliqué, mais ça l'est pas, parce que d'abord le style est fluide et on lit ça avec plaisir et rapidement en même temps. Donc c'est un livre mince, je précise. Donc on rencontre un certain Verzini que le narrateur reconnaît et à qui il donne ce nom, Verzini. Et lequel Verzini? Du nom, pas du tout, je ne suis pas Verzini. Donc à partir de là, le mystère se met en place, on a le puzzle, le mystère, et ben tout ça aboutit forcément dans un des hauts lieux du surréalisme, qui est la place Clichy, parce que c'est place Clichy qu'il y a ou qu'il y avait un studio de danse, et d'où la danseuse, et à partir de là, évidemment, toutes les questions se posent. Qui est cette danseuse? Est-ce que c'est une parente éloignée? Est-ce que c'est un amour de jeunesse? Allez savoir. En tout cas, une chose certaine, c'est que le puzzle, le roman, le livre, le récit, tout ce que l'on veut, se termine la nuit de Noël, ce qui n'est pas rien. Et donc, je me suis dit que pour vous en donner l'envie, j'allais citer page 24, quelques lignes de Modiano, qui se témoignent plutôt de son état d'esprit, sans doute actuel, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était la période la plus incertaine de ma vie. Je n'étais rien. Jour après jour, j'avais l'impression de flotter dans les rues et de ne pas pouvoir me distinguer de ces trottoirs et de ces lumières au point de devenir invisible. Voilà pour Modiano, l'invisible, pas vraiment.
Elle est tombée de son plateau, la petite danseuse mécanique. Tournait au son du phono d'une vieille boîte à musique, une mélodie, une rengaine, comme celle qu'elle aimait chanter. Là-bas aux frontières de l'Ukraine, mais son cœur s'est désaccordé, désaccordé, désaccordé. Et sa mémoire s'éparpille en milliers d'images fugaces, la Smoky Mountain de Manille ou juste le trottoir d'en face. Des salauds de toute engeance vendent leur âme 30 deniers contre un dernier lambeau d'enfance de petites filles désenchantées, désenchantées, désenchantées. C'est là qu'on l'a jeté un soir dans les mains des marchands d'amour. Sur les périphes, sur les boulevards de Santiago, de Singapour, à Berlin, Rome ou Amsterdam, en éternelle fiancée, elle effeuille les fleurs du mal sur des pianos désaccordés, désaccordés, désaccordés. Elle sait qu'elle ne reverra pas la maison bleue de sa grand-mère. Il ne reste plus rien là-bas que de la cendre, de la poussière. Mais que passe un vol de cigognes dans les hasards d'un ciel fâché. À demi-voix, elle fredonne une chanson désenchantée. Désenchanté, désenchanté. La petite danseuse mécanique a tout oublié du bonheur. Quand elle s'est foulée la cheville, elle s'est aussi foulée le cœur. Qui lui rendra son innocence? Le monde s'en est emparé. Lui naissant encore moins de chance qu'à ces petits bateaux de papier qu'au long des jours depuis l'enfance au caniveau fait dériver. Qui nous rendra notre innocence dans ce monde désaccordé, désaccordé, désaccordé.
Maintenant, l'auteur danois, l'autrice, doit-on dire. C'est vraiment pas un joli mot, l'autrice.
Non, c'est pas beau.
Je préfère dire l'auteur.
L'auteur, en... oui, avec un E. Oui.
Suspendu à E final, l'auteur.
Oui.
Et donc, c'est une certaine, je vais dire, mais non, elle n'est pas certaine, comme on va voir plus tard, Tove Ditlevsen, que j'ai eu le bonheur de rencontrer d'ailleurs un jour, mais voilà, je coupe ce que je voulais dire. J'aurais pas dû le dire. Mais je l'ai dit. Voilà. Et qui s'appelle, donc le livre en question s'appelle Enfance. C'est la trilogie de Copenhague. Et donc c'est le premier volume. Et il y en aura, j'imagine, il y en a eu, puisque ce premier volume a été édité en 1967 à Copenhague. Donc peut-être qu'il n'y en a pas eu, peut-être qu'il y en a eu. En tout cas, c'est Enfance. Eh bien, sur la jeunesse, sur la famille, sur la pauvreté. Moi, j'ai rarement vu, lu mieux, sauf peut-être chez les Russes. Il y a presque un côté russe. C'est réellement ce qui expliquerait quelque chose dont je parlerai tout à l'heure. D'ailleurs, il faudrait que j'y repense, que je ne l'oublie pas. Bref, en tout cas, j'ai rarement vu mieux sur cet univers prolétarien que ce livre qu'Enfance, quoi. Et le tout, sans doute, grâce d'ailleurs à, j'imagine, à la traduction qui coule de source, c'est-à-dire qui paraît, le texte du coup paraît avoir été écrit en français, et c'est le plus grand compliment qu'on puisse faire à un traducteur ou à une traductrice, c'est que lorsqu'elle rend sa copie n'est pas traduite de, mais comme une branche, la branche française de l'œuvre, et donc on lit ça avec le même plaisir que si on parlait le danois on l'aurait lu en danois.
C'est, tu peux peut-être donner le nom du traducteur, du coup.
Oui, ah, pardon. Donc, c'est Christine Berlioz, elles sont deux femmes.
D'accord.
Et la deuxième s'appelle Leila Flink Tullesen, voilà, pour les femmes, et donc qui ont rendu vraiment lisible et visible cette écriture au couteau, le couteau du peintre, évidemment. Hein. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de chichi, il n'y a rien que des mots, des phrases qui vont au plus profond, au plus net, au plus vif. Voilà. C'est remarquable. Il n'y a pas autre chose à dire. C'est remarquable. Et donc là aussi, je voudrais lire quelques lignes. Donc je regarde, je crois que c'est d'ailleurs la fin. Oui, c'est la toute fin. Les derniers morceaux de cette enfance se détachent de moi comme les lambeaux d'une peau brûlée par le soleil. Et dessous se dessine une fausse et improbable adulte. Je parcours mon carnet de poésie, tandis que la nuit passe son chemin derrière la vitre, et qu'à mon insu, l'enfance tombe sans faire de bruit au tréfonds de ma mémoire, cette bibliothèque de l'esprit où je puiserai expérience et connaissance tout le reste de ma vie. Voilà, j'en étais là. Cela dit, je me suis dit, c'est un beau livre en plus, c'est très beau, joli, c'est une maison d'édition qui s'appelle Globe.
C'est Globe, oui, c'est ça. Oui.
Qui est liée à ce qu'était Bourgois auparavant. Donc c'est un très joli livre, très bien traduit, il a toutes les qualités, mais tout de même, il y a quelque chose qui m'a choqué quand même. Je vais en parler, même si c'est légèrement déplaisant pour l'éditeur peut-être.
Un gars nommé Andersen, furieux du goulot, tourné dans les bars des ports, donnant à Oslo. C'est dans le pays danois qu'il devait trouver les pires emmerdes de sa vie, triste destinée. Et la petite cirrhose du port de Copenhague allait l'envoyer direct au creux de Laval, dans le port de Copenhague. On la connaît bien, la petite cirrhose, celle qui a un grain, et tous les gars qu'elle entraîne, s'ils ne sont pas crétins, au bout de quelques fredaines, passe vite le chemin. Elle fricote sans pudeur avec deux matelots, Berg et Borg, c'est leur nom, de sacré charlot. Tout de limité du bulbe, il supporte bien, si reçoit débile, vu sa chute de rein. En effet, ses avantages sont bien évidents, jamais vu telle morue au pays des harangues. Dans le port de Copenhague, on la connaît bien, au bar de la crevette, qu'Andersen la voit, et au fond de sa culotte, l'activité s'accroît. Mais les deux proprios de la petite cirrhose, les boules dans le rade, touchent la situlose. Andersen fout d'amour, quand alors son va-tout, il casse Berg et Tuborg en tapant comme un fou.
Copenhague. Il casse Berger, tu portes, c'est pas des blagues. Moralité, il se trouve dans de beaux draps, car il casse Berger, tu portes, il se retrouve au placard. Il casse Berger, tu portes, blague à part.
Parce qu'il me semble que l'éditeur français aurait pu signaler que Tove Ditlevsen n'était pas une inconnue pour les Français. Et puisque dans les années 70, tandis que s'arrachaient la plupart des productions du Sagittaire, nous avons publié en février 77 un autre chef-d'œuvre de Tove Ditlevsen, son ultime chef-d'œuvre, Cherche Marie, que m'avait recommandé mon ami Henrik Stangerup, autre romancier et cinéaste danois dont nous aurions publié un livre, qui a été un grand compagnon du Sagittaire, et qui préfaça d'ailleurs, et la Cherche Marie a été traduit et publié au Sagittaire, et préfacé par Henrik Stangerup. Et c'est très important parce que c'est quand même lui qui apporte un deuxième élément non cité dans l'édition de Globe, c'est le fait qu'elle s'est suicidée, cette jeune femme. Elle s'est suicidée après ce livre, Cherche Marie, qui a eu pour la première fois un vrai succès populaire. Et une première fois, elle a raté son coup, c'est-à-dire qu'on est venu la sauver, la réanimer, mais quelques temps après, elle s'est suicidée. C'est quand même pas rien, et il me semble que on peut dire ça d'un auteur sans que pour autant le livre, oh là là, on va pas lire le livre d'une suicidaire. Ben oui, ça arrive que les auteurs et les écrivains se suicident. Et d'ailleurs, Henrik, qui avait assisté aux obsèques, m'avait raconté qu'il y avait tout le quartier prolétarien qui existait encore à Copenhague, drapeau rouge et noir mélangé et tout ça, et avait été venu l'accompagner dans sa dernière demeure, comme on dit. Et ça veut dire que c'était réellement quelqu'un de très attachant. Bon, tout ça, évidemment, ça se trouve pas dans Wikipédia. Alors évidemment, si on regarde Wikipédia quand on cherche les œuvres d'un auteur, on ne trouve pas. Il y a évidemment une fiche sur elle, mais il n'y a pas ce.
Il n'y a pas ce livre.
Les choses, et il manque beaucoup de choses. Voilà. En tout cas, Henrik, lui aussi, est mort. Décidément, je vis entouré de mort. Nous vivons entourés de mort. Et je voudrais citer les premières lignes de la préface qu'il avait écrite, parce que je l'ai relu et j'ai trouvé qu'il y avait une formule magnifique. Un écrivain n'est rien d'autre que son propre emporteur. Voyez ma vie, c'est ainsi que j'étais heureux, c'est ainsi que j'ai souffert, que la détresse est venue. Pour Tove Ditlevsen, une détresse de plus en plus grande avec les années. Et personne ne pouvait satisfaire ce terrible besoin de tendresse et de sécurité que n'aurait su combler la respectabilité et le confort. Terminé. Ouais. Voilà.
À découvrir. Je pense que moi, ça me donne envie de le lire, en tout cas.
Pardon ?
Moi, ça me donne envie de le lire, en tout cas.
Ah, j'espère. C'est non, en plus, c'est formidable. Vraiment formidable. Et donc, j'imagine qu'il y aura une suite, ou à moins qu'elle n'ait jamais écrit de suite, j'en sais rien, mais je pense que là, quand même, ils n'auraient pas mis en sous-titre la trilogie de Copenhague si. 1. Donc, il y aura bien au moins un 2.
Oui, et puis s'ils pouvaient avoir l'idée de republier Cherche Marie, ce serait bien.
Oui, ça aussi. Ça doit être relativement facile, me semble.
Donc, en tout cas...
Relativement facile.
En tout cas, celui-là est paru chez Globe et est disponible dans toutes les bonnes librairies.
En passant par Grasset, évidemment. Grasset a repris le Sagittaire, donc même s'ils en ont rien fait de Cherche Marie, c'est eux qui doivent pouvoir. Les droits doivent être revenus dans la maison d'édition aussi danoise. En tout cas.
À suivre.
Ils font ce qu'ils veulent. Moi, ma mission est remplie, ma petite.
Voilà. Deux conseils de lecture. Moi, j'en ajouterai un en fin d'émission, puisque dans la série des auteurs femmes qui, moi, me plaisent, il y a Goliarda Sapienza, auteure italienne de l'art de la joie. Et là, il y a un nouveau livre qui est paru, puisqu'il a été publié il y a une dizaine de jours, et ça s'appelle « Destin piégé ». Et donc, j'aurai l'occasion de vous parler de « Destin piégé ».
C'est paru où, ça ?
Alors, c'est le Tripode qui a décidé de publier l'œuvre intégrale de Sapienza. Donc là, on en arrive à la fin, aux petits textes qui traînaient et qu'ils ont regroupés. C'est des textes très, très courts, très sombres. Mais bon, moi, j'aime beaucoup Sapienza. Voilà. Bah, en tout cas, merci. On se retrouve le mois prochain.
Il faut espérer.
Pour la dernière de l'année.
Il faut espérer. Allez.
Merci à toi.
Et à bientôt.
Voilà, c'était Gérard Guégan sur Radio Libertaire. On arrive à la fin de cette émission Idéaux et Débats. Mais comme je l'évoquais avec lui dans sa chronique, je voulais vous dire un mot à propos du dernier ouvrage publié par les éditions du Tripode, dernier ouvrage de Goliarda Sapienza, qui s'intitule « Destin piégé » et qui vient tout juste d'être publié. Alors, ces textes de Goliarda Sapienza sont des textes très, très courts. Mais avant de parler du livre en lui-même, j'aimerais quand même vous rappeler un petit peu qui est cette femme. Elle est née en 1924. Elle est la fille d'un père qui était avocat, syndicaliste, qui a été animateur du mouvement socialiste jusqu'à la guerre. Sa mère, elle était à la tête du journal Le Cri du Peuple. Elle a grandi en fréquentant les milieux socialistes et anarchistes italiens, et ça jusqu'à l'avènement du fascisme. Dans son parcours, elle a fait des études d'art dramatique à Rome. Et puis elle est devenue comédienne. Elle a joué pas mal de rôles. Bon, elle a eu une vie quand même très très mouvementée, très agitée. Et elle s'est mise à écrire un peu plus tard. Et ce qui est particulier avec Goliarda Sapienza, c'est qu'elle n'a pas connu le succès dans le domaine littéraire, puisque c'est une œuvre qui est tellement tellement étrange et tellement riche que en fait, bon, elle n'a pas trouvé à se faire publier. Et c'est uniquement après sa mort que c'est son mari, son dernier mari, qui a réussi à récupérer toute l'œuvre et à la faire publier. Alors le livre le plus célèbre d'elle, c'est bien sûr ce foisonnant roman passionnant qui s'appelle « L'art de la joie » et qu'il faut vraiment lire. Mais ce qu'il y a de bien avec les éditions du Tripode, c'est qu'ils ne se contentent pas de ce succès qu'est l'art de la joie. Et ils ont décidé de republier l'œuvre intégrale de Goliarda Sapienza. Et c'est comme ça qu'on en arrive à découvrir ces destins piégés qui sont très différents du roman L'art de la joie. Apparemment, ce sont des nouvelles qui ont été rédigées dans les années 50, c'est-à-dire avant qu'elle écrive le roman. Mais en tout cas, ces textes courts ont une grande fulgurance, sont particulièrement impressionnants. Et je vous propose d'en découvrir un d'ici quelques instants.
Ça ne prévient pas, ça arrive. Ça vient de loin. Ça s'est traîné de rive en rive. La gueule en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous ensommeille au creux des reins. Le mal bijoux fleur en boutonnière ou juste à la pointe du sein. C'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières, au jour qui meurt, au jour qui vient. Le mal de vivre, le mal de vivre, qu'il faut bien vivre, vaille que vivre, qu'on soit de Rome ou d'Amérique, qu'on soit de Londres ou de Pékin, qu'on soit d'Égypte ou bien d'Afrique, ou de la porte Saint-Martin. On fait tous la même prière, tous le même chemin, qu'il est long quand on doit le faire, avec son mal au creux des reins. Ils ont beau vouloir nous comprendre, ceux qui nous viennent les mains nues, nous ne voulons plus les entendre, on ne peut pas, on n'en peut plus. Alors seul dans le silence d'une nuit qui n'en finit plus, voilà que soudain on y pense à ceux qui n'en sont pas revenus. Du mal de vivre, leur mal de vivre, qui sans prévenir, ça arrive, ça vient de loin, ça s'est promené de rive en rive, de rire en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous émerveille, au creux des reins.
Très peur de mourir, depuis toujours. Ma mère disait que petite déjà, je voulais dormir avec la lumière allumée, de peur que la mort ne vienne me prendre dans le noir. Aujourd'hui encore, je dors avec la lumière allumée, mais j'ai peur quand même. Quand je m'éveille, je crains de n'être pas moi, et je me vois immobile et hébétée comme Carmela quand elle a eu cette attaque. C'est pour ça que j'essaye de dormir le moins possible. Même là, j'ai très sommeil, mes yeux se ferment, mais je ne dormirai pas. Je suis sûre que si je dors maintenant, je ne me réveillerai plus. Et j'aime tellement regarder dehors le matin. Je ne dormirai pas. Je peux aller sur le balcon et attendre l'aube. Heureusement que la fenêtre est grande et la lumière électrique de ma chambre très forte. Dehors, il fait si noir que à part les feux de circulation, on ne distingue rien. Tout n'est qu'un ciel obscur. Je n'ai jamais vu une nuit aussi sombre, mais peut-être est-ce du brouillard. Pourtant, ce n'est pas l'hiver. Je ne dormirai pas. Je vais rester ici, assis sur le parapet, et regarder la lumière à l'intérieur de la chambre. On dirait que c'est le jour. Un magnifique jour, ensoleillé. Je ne m'étendrai pas sur le lit. Je préfère me laisser aller en arrière, comme ça. On glisse si bien avec toutes ces lumières dans les yeux. Et puis ça va vite. 4 étages, en quelques secondes. Comme ça, je ne dormirai pas. Et personne ne m'éveillera. Quand elle viendra, elle me trouvera toute raide, et ce ne sera pas elle qui m'aura surprise dans le sommeil.
Radio Libertaire.
Voilà, c'était donc un extrait de Destin piégé de Goliarda Sapienza. C'est paru aux éditions du Tripode et je vous le recommande. C'est une porte d'entrée pour découvrir cet univers si particulier. Et puis laissez-vous tenter et découvrez l'art de la joie. On arrive à la fin de cette émission Idéaux et Débats. On se retrouve dans deux semaines avec au programme deux auteurs, Jérémy Lefebvre et Laurent Petit-Mangin. Mais d'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire 89,4 MHz et portez-vous bien.
Consacrer un moment à l'observation fine d'une mouche sur la toile cirée de la... Finir un mot croisé. Regonfler le vélo passé par le cimetière. Au moment le plus chaud, descendre à la rivière. Jouer les yeux fermés, à compter silencieux, à la vitesse exacte où tourne la trotteuse, dans l'ordre alphabétique se réciter par cœur. Tous les départements espérant qu'une erreur chatouillera votre esprit pour toute la journée. Savoir qu'à tout instant cette sérénité pourrait bien basculer en profond désespoir. Évitez de penser à l'arrivée du soir et finir par songer que tu aurais aimé partager avec moi ce jour d'amour chômé.